nessuno che ci insegna a non uccidere, c'è. Si vive più di armi che di pane, perché assassination.
Can't touch this.
Bonjour, bienvenue à la chronique Le Bit et le Couteau, numéro je ne sais plus combien, on a arrêté de compter. Donc là, aujourd'hui, on est bien nombreux, ça fait bien plaisir. Donc il y a Alex, bonjour. Coralie et Lionel qui n'avaient pas aquaponé cette semaine. Et il nous bonjour. Manque JV qui n'était pas là pour nous faire sa chronique ciné-geek. Donc cette semaine, comme d'habitude, on va faire un tour de l'actualité, parler d'armes imprimées en 3D, de Google Glass, du Chaos Computer Club français. En dossier, Coralie nous parlera de l'électronique en papier. Et après, on va parler du THSF.
THSF, ouais, qui aura lieu la semaine prochaine.
Qui aura lieu la semaine prochaine. Déjà le pad, ouais.
Le rappel pour le pad, si vous voulez avoir les liens qui sont évoqués dans l'émission, vous pouvez aller sur canadsud.tetala.org et retrouver le générique, les vidéos, les sons qu'on va diffuser pendant cette émission, et vous pouvez aussi poser vos questions si vous en avez. Ouais, on rappelle que le son que vous avez entendu en générique aujourd'hui, c'est le générique de Une contre-histoire de l'Internet, qui est passé hier soir à 22h40 sur Arte, donc que vous pouvez retrouver sur arte.fr pendant une semaine.
Je l'ai vu avant.
Tu l'as vu avant.
Ouais, voilà, était en avant-première sur Télérama ce week-end.
Et franchement, il était vachement bien.
Très bonne.
Très bon. C'était, comment il s'appelle, Jean-Marc Manac et Julien Goetz, je ne sais pas comment on dit. Et en gros, il va repasser le 1er juin à minuit, il me semble. Et sinon, on peut le regarder en streaming sur Arte.
Ouais.
Et je pense qu'on peut aussi le télécharger. Et
il se trouve déjà sur Pirate Bay depuis
Pirate
ce week-end.
Bay.
Voilà, un peu partout.
Et ce qu'il a de bien, c'est que pour une fois, c'est des gens qui connaissent Internet qui en parlent. Pas simplement des journalistes qui nous parlent des autoroutes de l'information. Et on a un peu un condensé de tout ce qui fait le joyeux bordel d'Internet. Et on apprend entre autres que Internet n'a pas été inventé par des militaires, mais par des hippies sous LSD. Donc c'est assez sympa. Et on retrouve aussi, comment il s'appelle, le papa du logiciel libre.
Lequel?
Stallman. Stallman et le parolier des Grateful Dead, là, j'ai oublié son nom aussi.
Le président de l'électronique, je ne sais plus.
Frontier Foundation.
John Perry Barlow.
Voilà, ouais. Qui
a fait le manifesto de la cyber, du cyberespace. Ouais. Non, le déclaration d'indépendance du cyberespace.
Voilà, ouais. Et aussi Bluetooth, enfin des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc. Alors, allez, on y va sur les actus. Donc déjà, il y a le rapport Lescure. Lescure, c'était un ancien de Canal. Il était chargé de faire un rapport sur la politique culturelle à l'ère numérique. Et donc, comme ses prédécesseurs, il n'y connaît pas grand-chose. Donc, il nous a sorti quelques mesures à la con. Donc, je vais un peu les lister. Donc, déjà, ça serait d'avancer la fenêtre VAD. La fenêtre VAD, c'est-à-dire une fois qu'un film est sorti au cinéma, il passe 4 mois après à la télé ou en DVD, et ainsi de suite. Donc là, leur bonne idée, c'est d'avancer ces fenêtres de VAD de 4 mois à 3 mois pour justement ne plus inciter au piratage et qu'on puisse les avoir plus vite en VOD. Donc ça, c'est, bon, c'est pas plus mal, hein. Ensuite, ce qui est moins drôle, c'est de confier tout ce qui est régulation de le rôle d'Adopi au CSA. Donc bon, pourquoi pas, hein, si ça peut faire des économies vu ce que ça nous coûte. Mais en fait, là, ça serait, il n'y aurait plus de coupure d'internet aux gens qui se font choper. C'est arrivé, je crois, juste une fois. Il y a un gars qui, un pauvre artisan, sa femme avait tenté de télécharger du Rihanna. Et elle n'y était même pas arrivée en plus. Et son logiciel de P2P continuant à tourner, elle a en fait partagé le titre de Rihanna à des milliers et des milliers de personnes. Donc il a même été jugé à une amende de quelques centaines d'euros. Et là en fait, on enlèverait cette coupure internet et ça serait simplement remplacé par des amendes.
De 60 euros, je crois. Hein.
Je sais plus 60 combien. Euros
Ou 160 euros, je sais plus.
Ça fait mal au cul quand même. Et donc en fait, ça serait un peu comme les radars automatiques. Et il y aurait pas, on pourrait toujours pas être jugé ni se défendre. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, il y aurait intégré la rémunération pour copie privée qu'on a sur les supports physiques, c'est-à-dire les CD, les disques durs et l'étendre au cloud computing. Cloud computing, c'est en fait, on a ces données hébergées sur des serveurs à l'étranger ou dans des grandes salles et on peut y accéder depuis n'importe quel équipement. Donc là, je pense qu'il y a un paquet de thunes à se faire. Ensuite, ce qui fait le plus jaser, c'est d'avoir une taxe sur les smartphones. Parce que les gens regardent les DivX sur les smartphones, tout ça. Donc la même chose que la copie privée. Donc celui qui ne regarde pas de DivX, il le paiera quand même, tant pis pour lui. Et enfin, un truc assez bien, je trouve, c'était qu'Adopi, on avait une... comment ça s'appelle ? Je ne retrouve plus... C'est ballot. Voilà, on avait une obligation de sécurisation de sa ligne. Donc si par exemple, quelqu'un téléchargeait des films de poney sur sa ligne, mais qu'on avait quand même sécurisé sa ligne en installant OpenOffice par exemple, on pouvait être quand même jugé comme quoi on n'avait pas sécurisé sa ligne. Et là en fait on a une obligation de moyens, donc si on prouve déjà qu'on a installé un pare-feu ou un firewall, enfin c'est la même chose, et ben on peut plus nous embêter. Voilà, donc ça c'était sur le rapport Lescure.
On peut continuer à Kitus, c'était qui a fait pas mal parler aussi un peu tous les médias cette semaine, c'est le gars de Defense Distributed qui a lancé son plan d'impression 3D d'un pistolet qui s'appelle le Liberator. Le Liberator, c'était une arme utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale par les résistants, je crois. Et donc l'impression 3D, c'est des machines qui peuvent imprimer des objets. Et lui, depuis depuis plus d'un an maintenant, il travaille sur la création d'armes à feu entièrement imprimées avec des machines d'impression 3D. Donc c'est pour rappeler ce que c'est impression 3D, c'est un peu comme le pistolet à colle, sauf que c'est contrôlé par une machine et ça permet de faire à partir des fichiers en 3D sur votre ordinateur, de faire des objets en plastique. Et donc il a fait ce modèle-là de pistolet qui est entièrement...
Là il est entièrement en plastique, sauf le percuteur, c'est une vis.
Voilà, donc c'est tout... Tout peut être partagé sur internet, donc tous les plans. Alors le but c'est que n'importe qui puisse les télécharger et imprimer ce truc là. Donc forcément, ça fait parler tout le monde parce qu'on peut faire des armes à feu, ça y est, c'est la révolution.
Ouais, c'est cool.
Alors que bon, c'est plus l'aspect mélange armes à feu et impression 3D qui dérange un peu, je pense, les gens qui connaissent pas trop ce domaine-là. Et voilà, c'est.
Puis c'était histoire de faire un titre un peu.
Ouais, c'est ça.
Racoleur, et puis voilà. Donc c'était...
Et en fait, le truc, c'est qu'on s'en fout un peu, quoi. Parce que le truc, c'est qu'il table sur l'accessibilité de l'imprimante 3D. Mais bon, le gars a imprimé ça sur une imprimante qui coûte 10 000 euros. Donc déjà, si nous, on le fait avec nos pauvres petites RepRap. Alors, RepRap, c'est l'imprimante 3D en do-it-yourself. En kit, on n'arrivera pas à la même qualité. Et donc, ça va nous exploser au visage. Et puis bon, après, il faut savoir que... n'importe qui a, je sais pas moi, un tour à métaux peut fabriquer très très facilement une arme. Après ensuite, là ce qui fait le plus peur, c'est que les législateurs se servent de cet exemple pour réguler les imprimantes 3D.
Donc,
on a déjà, ils sortent l'argument des terroristes. Bon, ils sont pas encore arrivés à avoir l'argument des pédophiles, donc je sais pas, peut-être donc, imprimer des enfants en 3D.
Il a eu beaucoup de chance aussi, ce mec-là, parce qu'il y a un petit coin du département d'État américain qui a décidé de lui demander de retirer le fichier de son site web.
Voilà, ce qui l'a rendu extrêmement célèbre.
Ouais. Exactement ce qu'il attendait.
Et donc, effet stressant, maintenant on trouve les fichiers partout, sur tous les sites d'échange. Donc après, et en plus, bon, nous ça s'applique pas trop en France, mais aux États-Unis ça aurait pu être un point de départ pour la législation sur les armes, qui soit un peu, parce que là-bas c'est wouhou, les cow-boys, tout le monde tire dans tous les sens, et
surtout sur les enfants.
Et je pense que la RIA, c'est
NRA
va, même si elle n'a pas envie que ça puisse s'étendre, l'impression 3D, elle va rien faire, puisque bon, à Boston, il y a eu plein d'attentats, il y a des gamins qui se font shooter tous les jours, et ce n'est pas pour autant qu'ils font une législation. La plus grosse problématique, en fait, puisque c'est les armes sont en plastique, c'est que tout le monde va pouvoir passer à l'aéroport sans se faire détecter son arme.
Oui, je rappelle quand même qu'il faut un moment une balle, donc qui reste pas en plastique, on sait pas les faire. Hein, donc j'attends encore qu'on fasse des balles en plastique et là on pourra parler de trucs indétectables dans des.
Ouais, et puis bon, après on mettra la vidéo, mais il y a comment ça s'appelle, un gars aux États-Unis qui montre qu'avec deux tuyaux et un clou, on peut très facilement fabriquer une arme.
Donc sans imprimante 3D.
Voilà, et ça a l'air super sympa à faire en plus. Je sais pas si on a le droit librement d'acheter des balles ou du plan de chasse.
Oui, bien sûr.
Ouais, tu n'as pas le droit de permis.
Ah, si, peut-être, ouais. Je ne suis pas chasseur. Je me renseigne en marque.
Il faudrait qu'on se renseigne, voir. Donc voilà, ouais, et donc il y a, comment ça s'appelle, une proposition de Leland Yee qui est un parlementaire aux États-Unis qui lui dit qu'il faudrait en fait qu'il y ait des permis pour acquérir des imprimantes 3D comme pour les armes, et que donc l'État puisse faire des recherches sur les personnes qui achètent des imprimantes 3D pour savoir si elles sont clean et que ça va pas servir à...
License to print, quelque chose,
voilà,
comme ça.
Voilà, license,
c'est pas mal.
To print.
Cool.
Ensuite...
Le Chaos Computer Club français, t'avais prévu de faire quelque chose par rapport à ça?
Ouais, un petit peu.
C'est par rapport à ce que tu as vu dans la contre-histoire de l'Internet.
Ouais. Le Chaos Computer Club français, c'est en fait une branche, le pendant français du Chaos Computer Club allemand, qui est un des plus vieux hackerspace au monde. Super connu, ils sont indépendants. Bon, ils ont eu un peu des embrouilles avec, parce que certains membres ont fait partie, étaient en top avec le KGB, tout ça. Et donc en France, il y a, comment il s'appelle, Jean-Bernard Condat, qui un jour, il était en train de pirater un serveur de la chambre de commerce à côté de chez lui depuis une cabine, et là il y a un gars du FBI qui l'arrête.
C'était chinois.
Voilà, pour savoir. Et plus tard, il y a un agent de la DST, Jean-Luc Delacour, qui vient le voir et qui lui propose en fait un deal. C'est qui serait de monter un club français, et de pour pouvoir contrôler les agissements de tous les pirates français. Donc Jean-Bernard Condat, il a créé le Chaos Computer Club français qui a duré, je sais pas, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un an avant que
il se grille un peu tout seul.
Se grille tout seul quoi. Parce que par exemple, ouais, dans le reportage sur Arte, ben on le voit, il est à la télé, il est en train d'expliquer, et puis il est vachement copain-copain avec le gars de la DST, et donc il s'est fait facilement griller. Mais bon, il a grillé surtout pas mal de confrères hackers de son club, et il a surtout, en fait, il a jeté le discrédit sur tout le mouvement hacker en France. Et depuis, il n'y a rien eu, à part le Tétalab, bien sûr. Il n'y a rien eu de... Voilà. Donc, et ce mec, et ben maintenant, et ben il a continué dans la sécurité. Et dernièrement, il a monté une boîte qui, en fait, propose un service de recommandé avec accusé de réception pour concurrencer la Poste. Quoi.
Non, en fait, voilà. Ok.
En fait, il n'y a que moi qui prépare mes actus, donc... Ouais, c'est bien, toi, t'as rien à dire, hein. Tu es un touriste. Alors, Google, j'ai vu, ils ont sorti un nouveau brevet, le Policy Violation Checker, qui veut dire vérification de violation de règles. Alors, Google a sorti depuis un bon nombre d'années un service de messagerie qui s'appelle Gmail. Bon, tout le monde a un compte Gmail. Et donc, en fait, ça viserait à toutes les entreprises qui utilisent leur service, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui utilisent Gmail en interne, d'avoir un logiciel quand on écrit un courrier depuis son poste de travail qui va aller contrôler des mots-clés qu'on utilise. Donc, je sais pas, par exemple, si l'entreprise a décidé qu'on ne pouvait pas utiliser de gros mots, le logiciel va créer une alerte qui va être envoyée à son manager. Et dans le meilleur des cas, nous proposer des mots de remplacement ou pour, par exemple, ne pas dévoiler des informations vitales à la boîte. Bon, c'est sympa comme idée, mais bon, c'est assez, c'est un peu une menace pour la vie privée, puisque automatiquement, il va y avoir, ils vont scruter nos mails. Bon, Gmail le fait déjà. Mais pour nous proposer de la pub. Et là, surtout, bah, tout le reste de la boîte, si vous écrivez un truc un peu tendancieux à votre femme ou je ne sais quoi, tout le monde va être au courant. Quoi.
Et puis voilà, les limites sont posées maintenant par des gens qui n'ont aucune légitimité à poser des limites. Donc c'est les gens eux-mêmes qui vont... Voilà, le responsable de l'informatique dans la boîte va se mettre à dire « Bon, ben voilà, les mots-clés, c'est ça. » Puis s'il a envie, je sais pas, il a un petit peu le béguin pour la secrétaire, s'il a envie de vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a aussi le béguin pour la secrétaire, il pourra le faire de la même manière. Donc voilà. Maintenant, on donne de la liberté à des gens qui... Enfin, pas de la liberté, mais la possibilité de faire de la, presque de la répression et en tout cas de la surveillance à des gens qui n'ont pas de légitimité.
Et ça va amener l'autocensure des gens, quoi. On va s'autocensurer.
Donc... Un des points importants aussi dans cette techno et ce brevet, c'était que la mise en place du filtre se faisait avant que tu envoies le mail même, pendant la composition du mail. Comme Gmail, quand on compose un mail, sauvegarde automatiquement. Le filtrage se fait déjà avant l'expédition du message. Donc tu peux commencer à être.
On te tient le crayon.
Filtré.
Et donc là, les gars de Google, à leur habitude, ils ont dit oui, mais non, nous, des brevets, on en pose des tas. Et bon, c'est un brevet parmi d'autres. Et promis, on ne l'utilisera pas. Et la phrase représentative, c'est si vous faites quelque chose et que vous ne voulez que personne ne le sache, peut-être devriez-vous déjà commencer par ne pas le faire. C'est beau.
C'est magnifique.
Voilà, enfin bref, je trouve que c'est de pire en... Depuis que je viens à la radio ici, je trouve que c'est de pire en pire. Quoi. À chaque fois, ils nous sortent des trucs, c'est juste énorme. Et donc, ouais, pour continuer sur Google, on va parler des Google Glass. Alors, les Google Glass, c'est quoi? C'est des lunettes de réalité augmentée. Donc, si vous vous rappelez, dans les années 90, c'était vachement la mode de la réalité virtuelle. Donc, si on a un casque avec... on voit plus rien.
Ouais.
Immersif, on a une image entière dans tout le champ de vision. Et en fait, la réalité augmentée, c'est juste là, on va avoir un petit écran dans le coin de l'œil qui va pouvoir nous envoyer des informations. Et cet écran est à moitié transparent, donc ça va se superposer au réel. Donc tout geek qui se respecte kiffe les trucs et à la bave au coin de la bouche. Donc ça offre plein d'idées. Donc je sais pas, par exemple, ces lunettes, elles peuvent faire de la vidéo juste en touchant la monture de la lunette. On peut avoir la météo, on peut avoir de la, comment ça s'appelle, de la navigation en temps réel. Voilà, en temps réel avec des flèches qui apparaissent ou.
Enfin, on n'est plus jamais perdu. On est au courant de toutes les infos sur les bâtiments qu'on regarde.
Voilà, des tweets en direct. Enfin bref.
On peut regarder les photos de chat tout le temps.
Voilà.
Si on est amateur de poney. Donc là, en fait, Google, je suis assez étonné par eux parce qu'ils font un peu comme Apple. C'est-à-dire que les lunettes, en fait, elles vont être commandées par la voix. Donc ça va être commencer à filmer ou envoyer un message. Et en fait, ils ont intégré un système de sélection de mots-clés comme leur brevet là. Donc si on veut dire va te faire à quelqu'un par texto ou dans la lunette, eh bien, ça va être automatiquement censuré. Donc ça veut dire qu'on achète un appareil mais on n'a pas le droit de lui parler comme on veut, quoi. Et alors que ça, sur quand on écrit un mail, tout ça, on l'a pas. Il y a que Apple qui fait ça sur ses iPhones. Je sais pas, personne n'a d'iPhone.
Non.
Les mecs, là. Moi non plus.
Ils censurent. S'ils te disent qu'ils comprennent pas la question, en fait, quand.
Ouais. Et là, du coup, ça va être pareil, quoi.
Ouais.
Bon, c'est bien pour les gars qui ont Tourette, tu vois.
C'est peut-être qu'ils comprennent pas la question. Après.
Ouais, non, mais tu vas écrire un SMS, un texto, et ça va être censuré dans
D'accord.
le corps du message. Donc, il va falloir se débrouiller
naïf.
À trouver des mots-clés pour. Pardon. Pour substituer. Et d'ailleurs, les Google Glass, vu qu'on peut prendre des vidéos en temps réel juste en touchant les lunettes ou en le disant, ou même, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont sortir des firmwares, enfin des nouveaux logiciels pour ces lunettes, on n'aura peut-être même plus à dire film, ça se déclenchera quand on touche les lunettes ou je ne sais quoi. Donc, aux États-Unis, elles sont toujours pas sorties, ces lunettes. Mais
tu peux les acheter. Hein. Ça coûte 1 500 €, le kit de développement.
Ah, c'est pour les développeurs.
C'est un kit de
et tu es obligé de l'utiliser aux États-Unis. Tu peux pas le prêter à quelqu'un. C'est plein de restrictions.
Ouais, enfin ouais. Bref. Donc, déjà, il y a plusieurs bars qui ont dit qu'ils interdiraient ces lunettes pour pas que les gens se fassent filmer à leur insu dans le bar. Il y a des parlementaires américains qui souhaitent l'interdire au volant. Et là, ils savent pas trop parce que ce qui est gênant au volant, c'est la manipulation du portable. Alors là, on aura les lunettes sur la tête, à commande vocale. Puis bon, Google explique que ça peut être une aide à la conduite.
Ouais, puis c'est déjà fait un peu. Il y a des constructeurs automobiles qui projettent sur les pare-brises, non ?
Ouais, ouais.
Les véhicules de luxe, il me semble.
Ouais, j'en ai jamais vu.
Mais... Non, moi non plus.
et pareil, il y a plein d'autres établissements qui vont le bannir. Donc il y a les clubs de striptease. Je sais pas pourquoi.
Ouais.
Les casinos, puisqu'on n'a pas le droit, en fait, aux États-Unis de filmer dans les casinos pour pas montrer les machines, tout ça. Ou les salles de cinéma. Pour pas se retrouver avec des versions pirates filmées à la Google Glass.
Ils ont vraiment peur, du coup. Les...
Ouais. Bon, après, les salles de cinéma, ils disent « Nous, on a déjà le problème avec les mini-caméras, donc ça nous changera pas grand-chose, quoi. » Puis bon, faut vraiment être violent pour regarder un film tourné dans une salle avec du son piqué en Russie ou des trucs comme ça, quoi. Et ensuite, il y a même certains États américains qui prévoient de l'interdire carrément dans la rue. Pour le même problème que les gens se fassent pas filmer dans la rue. Quoi,
parce que simplement. Là, c'est complètement à ton insu. Après,
après,
que c'est déjà
le
cas, c'est
le
rendre
c'est
disponible
peu...
à tout le monde, en fait. Je sais pas.
Ouais, puis bon, après, est-ce que les gens, ça va pas être piraté et on va pouvoir filmer ce que les gens ont sous les yeux Est-ce que l'État va pas dire, eh ben, nous, on veut une backdoor, une porte dérobée
une
pour avoir une backdoor. Yeah. Pour avoir accès aux vidéos en temps réel. Et donc là, t'imagines le truc, ça ferait de la vidéosurveillance à une échelle complètement folle, quoi.
Ouais, ouais. Après, je sais pas, j'ai lu il y a pas longtemps aussi qu'ils font déjà donc de la surveillance massive sur le, sur les échanges. Enfin, pour faire un parallèle, ça va augmenter le flux des données, mais sur les échanges mails. Et mais c'est sur le reportage où ils disaient qu'ils en récupéraient un tel paquet, ils savaient pas quoi en faire en fait.
Après c'est un problème d'automatisation, mais
tu
le régleras toujours un jour.
Ça viendra bientôt.
Comme pour la dernière fois, on avait parlé de toute l'Europe, ils sortent plein de logiciels pour faire de la reconnaissance faciale et reconnaître des situations à risque à travers la vidéo, quoi, parce qu'il faut un flic peut regarder 7 caméras en même temps et après au-delà et c'est impossible, quoi.
D'accord.
Donc j'ai fini. Oui. Ah oui, après je voulais juste parler, on mettra le lien. Je trouvais ça très beau. C'était un gars sur Instructable, qui est un site en fait de maker où chacun va montrer comment faire par étape telle ou telle chose. Est arrivé à faire des disques en bois, des disques vinyles à partir de bois assez fin en les découpant au laser. Et ça rend assez bien, quoi. Le son est vraiment pas mal. Donc il faut aller voir sur Instructable, on va mettre le truc sur le pad.
Ouais. Et il en avait fait un juste avant en impression 3D aussi.
Absolument. Mais c'était une imprimante. Ouais, remarque, la découpe laser est assez chère aussi, l'imprimante 3D est assez chère. Ouais. Mais c'est vrai qu'il avait commencé comme ça. Elle, non? C'est Amanda.
Je sais pas, ouais, c'est possible. Et bon, ouais.
Et j'ai vu aussi une fois, il l'avait imprimé en. Je sais pas si c'était lui, vous vous rappelez, quand on était gamin, on avait des espèces de manches disques.
Play School.
Voilà, les Play School, où c'était une boîte à musique avec un disque en plastique qui tournait.
Il y en avait, j'en ai trouvé déjà aussi en papier, des vinyles en papier gaufrés.
Ouais.
Et du coup, c'est le gaufrage qui crée le son également. Quoi.
D'accord.
Transition.
Et là, il a imprimé, il arrive à imprimer, donc il s'est imprimé des petits trucs.
Play School.
Ouais, des trucs Play School où tu peux mettre la musique que tu veux.
Bon, et là, sur le site d'Instructable, ce qui est bien, c'est que on peut soi-même faire réaliser éventuellement quand on a accès à une machine laser, donc dans un Fab Lab éventuellement, un vinyle qui est plus en vinyle mais qui peut être en PMMA ou en bois. C'est un super bel objet et donc il y a un générateur pour transformer ces sons vers le fichier qui va être envoyé à la découpe laser. C'est magnifique.
C'est magnifique.
Ce qui est bien, c'est qu'on ne paye pas de taxes sur le bois.
Oui, mais pas de taxes sur le bois. Oui, c'est pas encore un support numérique, c'est tout à fait judicieux. Et on n'en parle plus.
Moi, je fais le tour de la partie actuelle. Il y en a d'autres?
Non, on peut pas enchaîner sur la première.
On se fait une coupure musicale.
Première coupure.
Allez.
Yes. chez qui alors?
C'est chez lui.
Non, pas chez lui.
Ok, y'a un after, mais dans quel appart? On sait pas où on va, les gars s'en traînent la patte. Il est 5h du match, à ceux qui ont l'air malades. Et bien sûr, les crevards, tous ceux qui crèvent la taille. C'est pas un hasard, c'est ceux qui ont plus d'argent. Et qui te répètent en boucle, putain, faut que tu m'attendes. Une teuf, la porte ouverte, donc on rentre, c'est pas de chance. Non, l'ambiance était paisible, elle va être éclatante.
Now if you're really cool, motherfucker, let me know. You let me go with you, I gotta get out in your home. Gotta get out with you, or baby, I just can't sleep. Maybe after tonight, you die, fuck them seas. Let's be believing and let's get the leader. You got that, the need of dragons that I need it. Now we are the crew, come on, let's get it on. We are the crew, come on, let's get it on.
On est remonté à bloc pour finir la soir. On va dans ta coloc, mais pas chez moi. Sur la scène, on est six, mais on sera tout un tas à faire dans ton T6, l'after chez toi.
Pas chez moi.
Ah, mais si, allez.
Alors où on va?
Non, ou sinon chez Gérard.
C'est génie.
Tu seras bienvenu chez moi si t'aimes prendre des risques. Et squatter entre les journaux de boule et les bouteilles de pisse. Tu peux le voir façon atelier d'artiste, mais c'est plus proche de la cabane d'un charclos sur le périph'. Si on a besoin d'intimité, qu'on est déjà pas assez serré, on peut aller s'enfermer dans les chiottes sur le palier. Hey! Préparer un ponche dans l'évier bouché. Tu sais celui de la vidéo de YouTube où je me lave les pieds. Pour toi ça y est c'est l'after. Pour moi c'est toujours la journée. 5h du match, des jeunes bouteilles de rouge et hachi par manger. Je tambourine à la lourde. Y'a 6 connards qui cognent, putain. Faites exprès de venir faire chier quand je me pogne. Tu crois que je récolte les brebis galeuses comme aux journées du pape. Les gueuses et les gueuses. Ici c'est pas les restos du rap. En même temps si j'aide pas les jeunes, je vois pas qui c'est qui va le faire. J'ai en face des dacrous solidaires pour niquer la terre.
Donc voilà, de retour, donc c'était Dacrew Lab, c'est quoi le titre déjà?
Bonne question.
C'est où l'after?
C'est où l'after.
C'est où l'after. Voilà, qui seront présents le samedi soir au THSF. Donc on en parlera après le dossier de Coralie sur l'électronique papier. Ouais. Alors, nous t'écoutons.
Alors, donc j'ai parlé de l'électronique en papier et de l'électronique artisanale.
D'accord.
Donc je ne sais pas si vous connaissez, il y a une expérience toute simple avec un crayon à papier où on trace un circuit pour allumer une LED. Donc on relie la pile à une LED et c'est le graphène qui permet de conduire. Donc il y a des expériences beaucoup plus... Donc ça permet d'utiliser le papier comme support pour l'électronique.
D'accord.
Et... Le graphène, pardon, c'est... Le graphène, qu'est-ce que c'est?
C'est ce qu'il y a dans le... C'est conducteur.
C'est ce qu'il y a dans le...
Dans le crayon papier.
Ah, d'accord.
Et
j'étais une fraise.
Écoute un peu là.
Sois attentif. Je
suis la même à l'aise maintenant.
Pardon.
Et donc il y a une personne qui s'appelle Anna Perner-Wilson qui a fait une thèse au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, une thèse qui s'appelle Kit of No Parts. Et donc son enjeu à elle, c'était d'adapter la construction de circuits électroniques à des outils et procédés de fabrication artisanaux. Donc ce qu'elle voulait, c'est que déjà, c'est une manière de démocratiser l'électronique, parce que ce kit of no parts, il a été mis en ligne, il a été sourcé, et elle l'a présenté sous forme de recettes et d'ingrédients pour que ce soit assez facile de travailler à partir de ses recherches.
Et donc, tu as besoin de quoi pour avoir ce kit? Il se compose de quoi?
Alors, c'est pas un kit qui est tout fait, en fait. C'est plutôt des recettes.
D'accord.
On peut dessiner des circuits électroniques, par exemple, avec soit un crayon de papier, mais là, en termes de conductivité, c'est très faible. Soit avec un stylo encre conductrice.
D'accord.
Il y a de la peinture aussi pour peindre des circuits. La découpe, si on fait de la découpe de cuivre adhésif ou de papier conducteur, on peut faire des circuits de cette manière. Du modelage, par exemple, pour créer des fixations pour les batteries avec de la pâte conductrice. De la couture avec du fil conducteur ou du tissu conducteur. Et après, il y a d'autres techniques qui sont détournées de un peu de l'artisanat, comme par exemple l'utilisation de la feuille d'or pour faire des circuits... Voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ces recherches, c'est que finalement, le rendu, il est complètement différent d'un circuit électronique traditionnel, vu que c'est détaché de la production par ordinateur et de la production industrielle.
Et juste, moi, question technique, pour tout ce qui est composants, ils sont pas en papier, je suppose?
Alors, ça dépend. Non, forcément. Après, là, j'ai oublié de préciser que ça reste des recherches un peu... c'est toujours sur le low-tech, c'est-à-dire que ça, on va pas produire un... On va pas faire un smartphone au crayon à papier. Voilà, dans ces recettes et dans ces ingrédients, il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Ouais. Donc il y en a certains, par exemple le crayon de papier, ça va vraiment, ça va servir juste à allumer une LED, c'est plus pour une démonstration. Ou alors avec le makey-makey pour faire des pianos.
Ouais, le makey-makey.
Voilà.
C'est quoi le makey-makey, Lionel?
Le makey-makey, c'est une petite plaque électronique. On est un peu loin du sujet là, de l'électronique papier, mais c'est une petite plaque électronique traditionnelle qui a des touches et qui permet donc de transformer à peu près n'importe quoi en clavier. Donc il y a des démonstrations où on peut utiliser, enfin n'importe quoi, qui sera un petit peu conducteur. On peut utiliser des bananes pour faire devenir un assortiment de bananes, le faire devenir un piano ou avoir les pieds dans l'eau et que les bacs d'eau soient même des touches de clavier, des choses comme ça. Donc on peut faire un contrôleur, ça devient un contrôleur pour un ordinateur. Et c'est super simple à mettre en œuvre, mais c'est pas tout à fait...
Voilà,
on essaie de vulgariser un peu les choses, d'accord. Donc on explique.
Et en fait, je parlais de ça parce que donc le makey-makey, ça permet de contrôler n'importe quoi. Donc il y a l'exemple des bananes qui est assez frappant. Et là, il y a par exemple un piano en papier conducteur qui est fait... c'est le même principe un peu que le makey-makey, mais c'est fait avec une puce qui est reliée au papier conducteur. Donc.
D'accord, donc on peut se faire un makey-makey low-tech à pas cher, quoi.
Ouais.
C'est, cool. On peut faire pas mal de petits circuits qu'on vient ce type d'application, on va dire. Mais voilà, donc le graphène, c'est un peu le moins conducteur, mais après on a d'autres, par exemple la peinture conductrice à l'argent. C'est ouais. Extrêmement conducteur, donc avec ça on peut faire des circuits qui sont plus performants. Et, de toute façon, même aujourd'hui dans les smartphones, il y a des parts, ou même dans les appareils photo, il y a des parties qui sont avec des peintures conductrices.
D'accord. Et ça coûte cher ça, la peinture conductrice ?
Ouais, ça coûte assez cher. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est intéressant dans ce kit of no parts, c'est que vu qu'il y a la réalisation des composants, ça permet de bien comprendre, plutôt que d'acheter un haut-parleur qui est déjà tout fait et qui finalement c'est une pièce dont on va pas forcément comprendre le fonctionnement si on va l'assembler avec d'autres. Là, c'est un peu du jusqu'au boutisme, c'est-à-dire que vu qu'on dessine justement la spirale magnétique, ça va plus loin dans la tentative de compréhension et d'appropriation du fonctionnement des outils électroniques.
D'accord.
Et je crois qu'il y a aussi en fait du travail dans ce domaine-là qui consiste à faire bouger les formes du papier en mettant de la chaleur, et donc ça va rétracter le papier.
D'accord.
Il y a aussi de l'électronique dans ce domaine-là qui fait que les éléments qui sont mis en œuvre vont se mettre à se modeler eux-mêmes sous l'effet de courant un peu fort. Si tu le branches sur une pile un peu énorme, tu vois, ça va passer un courant, ça va chauffer, et donc tu peux dilater par exemple la surface supérieure du papier et ouais. Pas celle à l'intérieur, donc ça va courber le papier. Donc on arrive à des montages qui sont mobiles et commandables par de l'électricité. Il y a aussi la même chose avec le nitinol, là, le fil, tu vois pas ?
Non,
ouais, ça... C'est voilà. C'est un fil qui on en a un peu parlé à des moments, ça s'appelle la mémoire de forme.
Ah oui, c'est celui que reprend sa forme.
C'est ça, donc on peut le tordre dans un certain état, on lui met un courant et il va donc changer de forme quand il est alimenté par un courant électrique, et quand on arrête, il va reprendre sa forme initiale. Et donc c'est souvent intégré à du tissu, du papier, des choses comme ça, et donc il y a possibilité, c'est un peu dans les mêmes labos là, du MIT que ça fait recherche.
Ça s'appelle comment, tu disais ?
Le nitinol ou nitinol, je crois.
Ok.
Et ouais. Après, il y a aussi des recettes, par exemple avec la peinture au graphène, qui est la plus abordable de toutes, pour faire un condensateur. Donc, on peint un côté du papier, l'autre côté du papier, et ça fait un condensateur. La résistance, vu que ce sont des encres résistantes, la longueur, si on allonge la longueur du trait, ça va faire une résistance.
D'accord.
Pareil, il y a possibilité de faire un potentiomètre, un bouton on-off. Donc c'est surtout ça que je trouvais intéressant. C'est presque comme aller ouvrir un potentiomètre pour voir comment ça fonctionne. Le fait de le tracer sur le papier, ça permet d'aller jusqu'au bout de la démarche de compréhension. Et du coup, c'est pour ça que même si, on va dire, les champs d'application, ils sont assez limités du fait que ça n'a pas les mêmes performances en termes de conductivité, ça permet quand même, ça a quand même un intérêt pédagogique.
Ouais, ça ouvre un peu plus le cerveau que d'utiliser tout simplement un potentiomètre, voilà. On se rend compte de ce que ça veut dire, une piste de carbone, la conductivité.
C'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est limité pour faire des objets en soi, mais l'intérêt pédagogique, lui, par contre, il est...
Oui, tout à fait, ce que tu disais tout à l'heure avec le haut-parleur, c'est vraiment ça. On se rend compte que dans un haut-parleur, il faut une bobine, que voilà. le fait d'avoir réalisé cette bobine dans une spirale, parce que c'est un papier conducteur pour pas que ça se recouvre, sinon ça marcherait pas, on se rend compte de plusieurs effets, quoi. Le fait qu'il faut une bobine en cercle pour générer un champ magnétique, enfin, c'est plein de choses qui vont un peu ouvrir le cerveau, donc c'est ce qu'elle dit en arrivant à... Ouais. À simplifier, et effectivement on n'arrivera pas à des réalisations énormes, mais finalement c'est peut-être, ça a été la base de plein de choses sûrement, cette façon de faire, de plein d'éléments électroniques.
C'est une chose intéressante à faire à l'école, quoi, finalement.
Ouais, c'est un gros intérêt pédagogique, oui.
Et après, j'ai quand même trouvé des applications qui ont été faites dans le champ du design. Il y a donc une boîte qui s'appelle Uniform qui a fait des cartes postales sonores en papier. Et donc un lecteur de carte postale, l'idée c'est que la carte postale, il y a un graphisme dessus qui est représentatif du son, et le lecteur de carte postale, ça fait un peu comme ça permet de mettre la carte en évidence. Et sur le principe, ça m'a un peu fait penser justement au vinyle en papier dont je parlais avant, qui était aussi une carte postale avec une image qui est gaufrée et qui permet de faire le son. Donc il y a le rapport entre directement l'objet avec l'image, un peu comme les vinyles traditionnels aussi, où il y a ce rapport à l'image et au son. Voilà, donc ils ont utilisé la peinture conductrice pour faire ce système. Ils ont fait un poster interactif. Alors là, je pense que par contre, pour le poster interactif, ils utilisent la peinture conductrice, mais il doit y avoir des composants qui sont derrière le poster, qui permet de présenter les concerts à venir dans une ville, avec les différents concerts, et donc en touchant le groupe, on peut écouter la démo, leur démo de musique. Et apparemment, si le poster est relié à Internet, ça pourrait être soit actualisé, soit il y a la possibilité d'acheter des billets directement en touchant le poster, voilà.
D'accord. Ah, ils sont allés quand même un peu loin.
Ouais, je trouve que c'est presque trop loin, mais le principe de base, il est intéressant. Voilà, donc ça c'est pour les champs d'application. Après, l'électronique en papier, donc c'est aussi un domaine qui est exploré par les industriels, donc qui sont en train d'améliorer la conductivité des encres électroniques. Et il y a également des laboratoires de recherche qui font des... Il y a une batterie en papier qui a été fabriquée, et bon, des haut-parleurs en papier, mais par contre là extrêmement plat avec une impression jet d'encre dessus aussi. Voilà, donc ça bouge, et il y a des personnes qui cherchent même à faire des ordinateurs en papier. Donc, voilà, on n'y est pas encore, mais...
Ouais, parce qu'effectivement, comme c'est des encres conductrices, on peut maintenant s'éloigner finalement de la façon de le faire à la main, avec un pinceau ou avec des petites pointes assez fines, et puis remplir des cartouches d'encre d'imprimante avec la même encre, et donc faire des choses un peu plus précises, et arriver à des circuits un peu plus complexes.
Un truc qui n'a rien à voir.
Vas-y.
Mais un peu... On parlait de vinyle, mais ça me fait penser, je ne sais plus quel groupe qui avait sorti un vinyle. Et en fait, toute la pochette de CD, ça te permettait de construire un gramophone. Gramophone, c'est la chaîne stéréo de mon arrière-grand-mère, avec une aiguille et juste un cornet qui faisait amplification. Et en fait, toute la pochette se transforme en lecteur, en gramophone avec l'aiguille, et tu as un cornet qui se forme avec le...
Ah oui, d'accord.
Avec la pochette, et c'était vachement bien fait, quoi, et ça rendait un son assez bon.
D'accord, j'ai pas vu celui-là, mais il y en a un autre aussi en carton. Mais par contre, il n'y a pas de pliage, ça fait pas un cône, mais dans le carton qui contient le vinyle, Il contient aussi la petite patte avec l'aiguille pour faire... Et donc, il n'y a pas de moteur. On fait tourner le vinyle à la main pour jouer la musique. Voilà, et c'est pas tellement amplifié vu qu'il n'y a pas de cône pour le coup, mais il y a eu pas mal de projets qui sont sortis autour de cette idée.
Ouais, bon, tout ça, c'est, oui, c'est les principes de base, en fait. Tu vas te rendre compte de ce que ça signifie.
Ouais,
une gravure.
Ouais, gramophone, et... c'est début du XXe siècle. Mmh. Ouais, il y avait le phonographe avec des rouleaux en cire.
D'accord.
Je sais, j'en ai un.
Ah ouais,
ouais, c'est classe. On a fini, tu as fini?
Merci.
On se met une petite musique et on parle du THSF.
C'est parti.
Allez, go.
Merci. Nickel.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Courte cette magnifique réinterprétation de Space Oddity qui a été fait par Chris Hadfield à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et c'est d'ailleurs le premier clip tourné dans l'espace. Et donc il reprend Space Oddity de David Bowie en arrangeant les paroles. Et juste pour situer le monsieur, c'était le commandant, là il a des moustaches. On me fait signe qu'il a des moustaches. Il a une moustache, oui, c'est vrai. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup.
C'est le commandant, tu disais.
C'est le commandant, et il est resté 163 jours. Là, il vient de redescendre il y a quelques jours.
Hier.
Hier, au Kazakhstan. Et il a fait un maximum de pub en fait à la NASA et à toute la recherche spatiale, parce que il a vachement utilisé tout ce qui était réseaux sociaux, Twitter, tout ça, et il a fait des expériences farfelues, bon, donc comme son clip de Space Oddity. Il a par exemple montré ce que ça faisait de pleurer dans l'espace, ou comment utiliser les toilettes dans l'espace, ou ce que ça fait de d'essorer une serviette dans l'espace, donc des trucs scientifiquement pas démentiel, mais bon, qui sont assez attractifs.
Mmh. Donc, il a fait beaucoup de pubs. Ouais. Des contacts avec des lycéens, des collégiens, et qui les a interviewés en direct et tout ça.
Ouais.
Très bien fait. On va parler du THSF.
Voilà, le THSF, donc qui s'y colle.
On peut,
c'est toi le chef.
On le fait en tournant.
Donc THSF, c'est le festival qui a lieu au Theta Lab tous les ans, en collaboration avec Mixart Miris.
C'est la quatrième édition.
C'est ouais. La quatrième édition, donc ça fait 4 ans que le Theta Lab existe. Et ça, cette année, ça a lieu du 22 au 26 mai, donc ça commence mercredi, la semaine prochaine, mercredi soir, où on commence par une soirée Theta Lab spéciale THSF. Donc pour rappeler, le Theta Lab se retrouve tous les mercredis soirs à Miris, même ce soir si vous voulez venir, c'est à partir de 21h. Et la semaine prochaine, on commence à 19h, je crois.
Voilà, on fait un truc un peu plus... Enfin, c'est déjà super ouvert, mais on fait un truc, un Theta Lab extended. Voilà,
avec...
soirée d'ouverture.
Avec un repas galactique.
C'est ça.
Et donc, en fait, la formule, avant, c'était le vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà. Là, c'est mercredi, jeudi jusqu'à dimanche.
Donc, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Le jeudi, on continue avec une soirée concert avec You Can Dance et Alfie Reiner.
Il y a déjà des ateliers dans la journée, jeudi.
Il y a aussi des ateliers.
Il y a des ateliers dans la journée, le jeudi, des démonstrations d'utilisation et de génération de la monnaie Bitcoin, dont tu as déjà parlé.
Bitcoin. Ouais, on a quoi, le Graffiti Research Lab?
C'est ça, le Graffiti Research Lab.
Des ateliers.
Des ateliers autour de hacking Minitel, en fait, hein, donc du rétro hack. Et puis aussi du light painting en utilisant des tournements de canettes de peinture, de bombes de peinture.
Il y a pas une histoire avec des LED
aussi, et il y a une LED bar qui permet de faire du graffiti avec des textes, des images.
Donc ensuite, en vrai, qu'il y aura du lockpicking. Lockpicking, c'est...
Alors ça, c'est le week-end. Donc déjà, le jeudi, donc il y a des ateliers,
jeudi,
des démos.
Vendredi, il y a des
ateliers démos.
Dans la journée, où il faut s'inscrire, du coup.
Sur ceux du GRL, il y a des inscriptions. Il y a des ateliers aussi sur Processing. On s'inscrit sur
Processing.
Processing, c'est un logiciel qui permet à des gens qui ne seraient pas forcément initiés, un petit peu quand même, mais qui ne seraient pas forcément initiés à la programmation, faire un peu d'interactivité avec leur machine, donc travailler l'image,
afficher des choses à l'écran, faire un peu d'algo,
jouer le son.
C'est la même interface qu'Arduino.
C'est ça.
Voilà.
Absolument. Donc il y a des formations initiation processing et formation processing un peu plus avancée les jeudis, vendredis, samedi et dimanche. Des ateliers donc avec le GRL qui commence dès le jeudi, il y en a le vendredi aussi. GRL, c'est Graffiti Research Lab, des gens qui travaillent sur le graffiti numérique,
en mode
hacking un peu numérique et lumineux.
Il y a ce que je disais, lockpicking, c'est samedi dimanche.
Alors ouais, donc
ça, en fait, c'est l'art d'ouvrir des cadenas.
C'est ça,
forcer des serrures.
C'est ça, c'est l'art de montrer que c'est quand même extrêmement simple d'ouvrir un cadenas avec des outils super simples qui coûtent pas super cher. C'est pour faire la démonstration que la sécurité qu'on nous vend en fait est pas si grande que ça, que c'est pas parce qu'il y a marqué abus ou machin sur un cadenas.
Puis connaître comment marche une serrure, tout ça.
Ben c'est ça, ouais. Augmenter un petit peu ces
connaissances. Donc après, il y aura aussi imprimante 3D.
Au niveau démonstration, dans le week-end.
Tout ça, c'est la partie atelier du week-end. Ouais. Mm-hmm. Vous pouvez vous-même venir si vous avez des trucs à montrer. Donc il y a des tables, des chaises. Et
on aura d'ailleurs en première exclusivité mondiale le modèle issu du Theta Lab.
On peut en parler, ça y est.
Là, je lui mets la pression, il est obligé.
D'accord.
Donc, si vous voulez voir notre. C'est même plus un prototype maintenant.
Ouais,
le produit fini. Notre. La magnifique Theta Print.
Voilà, qui a été développé
d'une main de maître
par Yannick avec en plus des méthodes originales qui sont pas forcément celles qui ont été utilisées jusque là sur le mouvement des axes dans l'impression 3D. On a un modèle intéressant
et en open hardware en plus.
Absolument.
On continue sur les ateliers, donc il y aura l'atelier badge avec John Lejeune, ça sera
le week-end. C'est vraiment pour initier les gens à la soudure, un peu démystifier le processus et montrer que en faisant un petit objet sympa, assez rapide, à tout âge, et on peut aussi créer soi-même son petit badge lumineux. Tout ça, c'est tout le long du week-end.
Comment on fait pour aussi s'inscrire aux ateliers?
Alors pour les ateliers badge du week-end, là c'est open tout le temps, hein, on a des fers à souder branchés, on y va et paf, on soude. Pour les autres ateliers, il y a une liste qui est sur un pad qu'on va mettre en lien sur le...
On va mettre un lien sur thsf.ttla.org si vous voulez retrouver tout le programme des ateliers, des conférences, des concerts.
Sur le site, il y a un lien pour s'inscrire.
On va rajouter un lien pour...
Oui, on va le mettre. On est sur des très frais.
Il n'y a pas de mail de contact.
Non, il n'y a rien.
C'est un pad.
C'est quoi le site là ?
Il faut envoyer une carte postale. Donc c'est thsf.ttla.org. Et donc on va continuer à parler des ateliers, donc pareil tous les soirs des concerts, le jeudi soir on parle tout à l'heure You Can Dance et Alfie Reiner, le vendredi soir Sia X.
C'est du lourd, hein, déjà le jeudi soir c'est déjà du lourd.
Mm-hmm. Et vendredi soir Sia X et Rep, et pareil soirée bien chargée jusqu'à minuit à peu près pour commencer le samedi matin assez tôt, et jusqu'à terminer sur les concerts, donc le samedi soir jusqu'à 5h je crois, 2h, excusez-moi. Eugénie Hourche, Mécanique Quantatique, Trap, Dacroulab qu'on a entendu tout à l'heure, Cursor Minor et KDS. Donc voilà, ça dure une bonne partie de la nuit. En plus des concerts, il y a des performances. Donc le vendredi, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de concerts, parce qu'il y a 4 performances de la compagnie Cadence avec Jean-Marc Matos, CHDH, Hirohito. Et le samedi aussi des performances, il y a RKO qui présente Combustion, et Philippe Boinard et Hortense Gauthier qui fait HP Process. Et comme chaque année, le THSF aussi est vachement concentré sur les conférences.
C'est ça, il y a une épine dorsale quand même, hein, de la technique conférence, etc., avec des choses hyper intéressantes.
Donc le principe, c'est qu'on a proposé à des gens de venir parler de leur sujet qu'ils avaient envie de parler. Et cette année, on a donc des conférences toute la journée du samedi à partir de 11h. Donc le matin, avec 2 conférences sur les Fab Labs, les Hackerspace et comment s'organisent ces groupes-là. Avec à 11h un retour d'expérience du Fab Lab R avec Olivier Richard qui vient de Grenoble et va nous parler de comment s'est passé à Grenoble pour la construction du Fab Lab R. Et Camille Bosquet qui va proposer une conférence à midi sur une redéfinition du design par l'autoproduction avec les Fab Labs, les Hackerspace et les Makerspace. Et tout l'après-midi, on a un thème plus activisme. Avec à partir de 14h, Fou qui vient nous présenter l'activisme au Moyen-Orient et comment s'est passé avec les ONG, les médias pendant les révolutions arabes. À 15h, il y a Roux de Regards Citoyens qui nous présente Open Data, Internet et Transparence, quels sont les impacts sur nos démocraties. À 16h, il y a Bikepunk et Lunar qui présentent une nouvelle association en France qui s'appelle Nos Oignons, qui fait la promotion du réseau Tor, on en a parlé quelques fois ici. Ouais. À 17h, il y a Casper Boden qui fait une conférence sur la surveillance globale du cloud computing. Donc cloud computing, comme on disait tout à l'heure, c'est mettre tout plein de données sur Internet, sur des données privées, et lui qui présente comment ça se passe avec les nouvelles législations pour surveiller ce genre de données. À 18h, en dernière conférence samedi, il y a Benjamin Bayard de French Data Network et Jérémy Zimmerman de la Quadrature du Net. Donc on a sûrement dû en évoquer quelques aventures ici.
Bah oui, ils sont passés à la télé.
Et ils sont tous les deux
Ce sont des gros défenseurs de la neutralité de l'Internet.
Voilà. Et dimanche, on continue l'après-midi, pour être un peu tranquille dimanche matin. Avec à 14h Knitic, une machine à tricoter open source. Donc il y aura des démos si vous voulez voir un peu comment on tricote avec une machine open source. Et à 15h, du reverse engineering avec les équipements et formats de fichiers dans la recherche par Jonathan Bison. Et enfin, on terminera à 16h avec des lightning talks. Donc il y a déjà quelques trucs de prévu. C'est fm1.org, un magazine d'informatique open source. Et les French Burner, donc Stéphanie qui était là la dernière fois, qui va présenter l'installation artistique qu'ils vont proposer au Burning Man. Et voilà, il y aura aussi sûrement le NOC, des personnes qui s'occupent du réseau THSF cette année, de Theta Neutral, qui vont présenter un peu comment ils ont monté le réseau,
l'architecture
du réseau au THSF. Ils sont en train de monter un peu un truc de malade. Et voilà, si vous avez des fichiers à partager sur Internet pendant le THSF, vous pouvez profiter du débit qui sera proposé sur cet espace-là.
Ouais.
Ok.
Bon, et c'est un moment convivial. Hein. On se retrouve, oui, on échange, on discute. Voilà.
Et en plus, on a oublié toute la journée. Il y a des installs vidéo, sonore, interactive. Il y aura par exemple une partie bande arcade où il y aura.
Ah oui, effectivement, il y a une zone rétro gaming dans laquelle
il y aura l'install Hyper Olympics.
Absolument.
Si vous avez toujours rêvé de courir dans un jeu vidéo, mais en vrai.
Et vendredi soir,
il y aura
une qualification pour la finale à Paris qui aura lieu le week-end prochain. Donc carrément, il y a un billet à gagner pour aller à Paris courir sur des bornes d'arcade.
Il y aura quoi, Didier, Bonne Maison Rebondi, Machine Infernale. Alors je sais pas.
Bon, il y a plein d'installs en fait.
Voilà, on rappelle que c'est un Mixart Miris.
Ouais, ouais, absolument, tout à fait. En collaboration EA Mixart Miris.
12 rue Ferdinand Lassalle, si vous voulez.
Le site, c'est thsf.tetala.org, qu'il ne faut pas oublier.
thsf.net, il y en a plein.
Et l'entrée est en participation libre, mais nécessaire, comme d'habitude, à Mixart Miris. Ensuite, on a fini sur ça. On va faire juste l'agenda vite fait. Là, tu avais les amis du monde diplomatique
qui font une soirée libriste mardi soir à la salle Sénéchal. Il y aura le Theta Lab qui sera présent. La dernière info, c'était.
Jean.
Pardon ?
Ouais, je te pique la parole.
Vas-y.
Juste pour signaler un festival à Grisol le 7 juin qui s'appelle Festival Welcome to the Jungle. C'est une manifestation un peu hétéroclite qui mêle différentes cultures, différents arts créatifs. Donc c'est à partir de 16h... de 16h en extérieur et gratuitement, où là il y aura exposition de peinture, photos, dédicaces de livres, jeux en bois, stand créatif, papeterie, bijoux, ça.
Je peux en caler une.
Ouais, attends. Des performances avec démonstration de percussion, une perfo scotch et une démo de mix et scratch vinyle. Et ça se poursuivra de 22h à 6h du matin en intérieur avec une entrée payante 8€ avec boisson, où là on aura différents sons qui vont succéder, trip hop, mix, reggae, tech, drum and bass et dubstep.
Tu t'es fait acheter ou quoi?
Je copine. Voilà, et le dress code, c'est moi Tarzan, toi Jen. Allez, place la tienne.
Non, juste rapidement, c'est-à-dire qu'en même temps que le THSF, il se passe un truc aussi à l'île légale, c'est à quel endroit ?
Il y a de la Villefranche de l'Auragais.
Villefranche de l'Auragais, voilà, c'est ça. Il y a.
Un pôle autoconstruction.
Voilà, autoconstruction d'éoliennes. Donc, rapidement, il faudra chercher un petit peu sur Internet, on essaiera de mettre des liens, mais voilà, il y a ça en même temps, avec une petite.
Et aussi, il y a le week-end des curiosités du bikini, mais il ne faut pas y aller. La prog est pourrie.
Et le THSF est en partenariat avec Wikipédia, où vous pouvez aller voir le film dont on a parlé toute l'émission.
Wikipédia,
Utopia.
Utopia, excusez-moi. Utopia, où il y a quelques films qui sont prévus, dont le dimanche soir, le Cosmo. Qui a été un film open source, je crois.
Ouais, il y aura la diffusion d'une contre-vérité.
Voilà, une contre-histoire de l'Internet.
Histoire de l'Internet.
Et un débat du mois organisé aussi par Carré d'Info sur le partage des savoirs et les enjeux pour les innovations technologiques et numériques qui aura lieu à la médiathèque le 29 mai.
Ok, je vous remercie tous et on se retrouve dans un mois.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Touch this.
Voilà, le magazine s'achève et Theta Lab aussi, donc restez à l'écoute de Canal Sud 92.2 pour cette magnifique programmation musicale que le monde entier nous envie.